Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
J'ai entendu une voix ou j'entends une voix qui me demande de vous parler de l'accélération. Alors, si Dieu enlève le délai, le mot délai, c'est le a pour synonyme le mot sursis, temps supplémentaire, le prolongement d'une période. Jeudi, j'ai indiqué à l'Église qu'il y a des moments où Dieu veut que nous attendions. Parce que l'attente, du moins, le temps n'est pas notre ennemi. À la base, Dieu nous met dans le temps pour nous donner l'opportunité de nous modifier. Lorsqu'Adam et Ève ont, du moins lorsqu'Adam a péché, Dieu les a introduits dans le temps, a empêché qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils restent indéfiniment dans cet état. Donc Dieu les a mis hors du jardin. Et la sanction qui avait été prononcée, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort. Mais nous sommes dans le temps parce que dans cet espace qu'on appelle le temps, nous pouvons nous modifier. Caïn a tué Abel. Après avoir tué Abel, Caïn lui-même dit à Dieu, le châtiment que tu me donnes est trop grand. Celui qui me trouvera me tuera. Et Dieu lui dit non, je mets un signe sur toi de telle sorte que celui qui te trouve ne te tue pas. Et c'est pendant qu'il était dans le temps que Caïn, malgré le fait qu'il ait tué son frère, a réussi à s'en sortir. Ésaü manque la bénédiction transgénérationnelle. Et normalement, à cause de cet échec, Ésaü décide dans son cœur de devenir un meurtrier, de tuer son frère. Mais le temps. Alors que Abel va passer 20 ans chez Laban et qu'il va être trompé, qu'en 14 ans il va avoir deux femmes. 20 ans plus tard, donc, lorsqu'il rencontre Ésaü, le Ésaü qu'il rencontre n'est pas celui qu'il avait laissé 20 ans plus tôt. Ésaü qui l'a fui voulait le tuer. Celui qu'il rencontre l'embrasse. C'est possible de faire mentir les prophéties négatives contre vous. C'est possible de faire mentir les pronostics, les statistiques qui ne sont pas à votre avantage. Tant que vous êtes dans le temps, il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas obligé d'accepter que ce qui a été, c'est ce qui sera. Parce que le temps est une opportunité de faire les choses différemment et de faire d'autres choix. Alors, Ézéchiel 12, 28, Dieu parle. Je vous donne le contexte rapidement. En réalité, Dieu s'irrite contre le peuple d'Israël. Et Dieu leur dit, à cause de votre discours moqueur, à cause de ce que vous avez dit contre moi, il dit, à partir de maintenant, quand je prononce une parole sur vous, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura pas de temps de modification. Ma parole va s'accomplir. Donc cette parole en réalité d'Ézéchiel 12, 28 est une parole où Dieu les menace. Une autre version dit « Les menaces que j'ai proclamées sur vous s'accompliront. » J'ai compris donc qu'il est possible d'emmener Dieu à hâter un jugement sur soi à cause de son discours. Je veux vous parler ce matin et vous donner quelques clés, quelques pensées majeures avant qu'on ne prie. Parce que je crois que s'il est possible de retarder l'accomplissement de ces prophéties, de retarder l'accomplissement des paroles de Dieu sur sa vie, il est possible d'accélérer, de hâter. Laissez-moi vous donner d'abord un texte qui met en lumière l'une des raisons pour lesquelles les gens se retrouvent souvent à être en retard. Actes 7, 22 à 29. On va lire du verset 22 au verset 25. Et ensuite, je vous parle. Si vous avez le texte devant les yeux, nous allons lire ensemble au compte de trois. 1, 2, 3. Moïse, sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Je m'arrête là. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des Saintes Écritures, l'histoire du peuple juif dans le contexte de la Bible, réalisent que Dieu parle à Abraham et lui dit « Ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. » Le peuple juif arrive en Égypte par l'entremise de Joseph. Et ce peuple qui rentre en Égypte libre va vivre, après la mort de Joseph, plusieurs siècles d'esclavage, de servitude, parce qu'il va s'élever un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Ça veut dire que ce qui va introduire le peuple de Dieu dans la servitude, c'est le fait que celui qui est au pouvoir ne sait pas comment ce peuple est arrivé là. Mais surtout que ce pharaon n'a pas eu accès à Joseph. Il faut donc que vous réalisiez, oui, je vais vous dire ça, que ce sont les hommes qui créent la servitude. L'absence de quelqu'un peut provoquer le début de la servitude dans la vie d'un peuple. La présence de quelqu'un peut provoquer la fin de la servitude dans la vie d'un peuple. Ça veut dire que tu es peut-être esclave dans un domaine de ta vie parce qu'il te manque quelqu'un. Le peuple d'Israël doit sortir de l'esclavage, mais il y a un retard sur la promesse, sur la prophétie libérée par Dieu. Au lieu de sortir à 400 ans, ils vont sortir à 430 ans. Ce retard de 30 ans, le docteur Luc qui écrit le livre des Actes dit, c'est parce qu'au moment où Dieu met dans le cœur de Moïse la volonté, le désir de libérer le peuple de Dieu ne va pas comprendre que c'est par Moïse que Dieu voulait le libérer. Est-ce que vous me suivez ? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque le peuple de Dieu a regardé à Moïse, du moins, le peuple juif a regardé à Moïse, ils ont regardé à Moïse et n'ont pas su discerner que c'était celui-là qui était leur libérateur. Deux Hébreux étaient en train de se battre. D'abord, un Hébreu et un Égyptien se battaient. Moïse va tuer l'Égyptien pour permettre à l'Hébreu de vivre. Mais plus tard, deux Hébreux se battent. Et alors qu'ils se battent, Moïse leur dit, c'est pas juste que vous vous battiez, vous êtes frères. Celui qui avait le dessus sur son frère dit, est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'autre? Qui t'a établi juge sur nous? Certaines des choses que Dieu veut faire dans ta vie prennent du retard parce que tu ne reconnais pas le rôle que quelqu'un doit jouer dans ta vie. Moïse a fui à cause d'une parole. Quels sont les gens que tu fais fuir de ta vie à cause de tes paroles? J'ai raconté cette histoire au premier culte qui m'a été raconté pendant que j'étais à Lubumbashi. Bon, la personne qui raconte l'histoire est présente. Dieu met dans le cœur du père d'une église de faire du bien à un de ses fidèles. De manière spécifique, Dieu lui dit, appelle tel fidèle, donne-lui cette voiture. Donc, il prend le téléphone, il compose le numéro de son fidèle, le téléphone sonne, moins. À un moment, il décroche. Donc, la personne à l'autre bout du fil décroche, mais sans savoir qu'elle décroche. Et pendant que l'homme de Dieu a le téléphone à l'oreille, il entend son fidèle dire, croyant qu'il n'a pas encore décroché, « Qu'est-ce que le vieux là me veut ?» toujours en train de m'appeler, il me fatigue. Au moment où il se rend compte qu'il a déjà décroché, il prend son téléphone et dit « Allô papa ?»« Oui papa, comment ça va papa ?» Le pasteur lui dit « Ça va. »« Oui papa, que puis-je faire pour toi ?»« Je voulais savoir comment tu allais, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu au culte. »« Non papa, ça va, je serai au culte dimanche. » Le pasteur a dit « Que Dieu te bénisse. Au revoir. » Voilà quelqu'un qui vient de faire fuir celui dont Dieu avait touché le cœur pour le sortir de la marche de Moïse. Qu'est-ce qui a fait fuir celui qui avait le véhicule et dont le cœur avait été tourné? Un discours. Il se peut qu'il doit maintenant attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un d'autre. Quand il va se plaindre à Dieu pour dire « Seigneur, tu m'as promis un véhicule », Dieu va lui dire « C'est vrai, mais au moment où le véhicule venait jusqu'à toi, à cause de ta bouche, tu as provoqué un retard. J'aimerais que tu menaces la personne à côté de toi, dis-lui fais attention à ta bouche. » Je veux que vous compreniez, parce que c'est là la pensée majeure et principale que Dieu m'a donnée pour l'Église. Dieu m'a dit, et je le dis haut et fort, il n'y aura plus de délai. Amen. En d'autres termes, il n'y aura pas de retard. Amen. Maintenant, je veux que vous compreniez comment est-ce que Dieu fait arriver les choses jusqu'à nous. Si Dieu parle dans le ciel, sur la terre, quelqu'un doit se faire l'écho de la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu a décidé de te faire du bien. Avant de faire ce qu'il veut faire, Dieu va permettre à quelqu'un d'avoir accès à son plan pour toi. Et cette personne va devoir le dire. C'est très souvent dans ce cas de figure que Dieu suscite un prophète, une prophétesse, un homme ou une femme, quelqu'un qui dit exactement sur la terre ce que Dieu a dit dans le ciel. Par exemple, Dieu dit « Je vais faire de toi un milliardaire ». Au moment où Dieu le dit dans les cieux, quelqu'un sur la terre entend la voix de Dieu et dit « Tu seras milliardaire. » C'est pour ceux qui sont en ligne. « Tu seras milliardaire. » Donc quand l'humain le dit, entre le moment où la parole est libérée et le moment où elle s'accomplit, tu vas devoir rencontrer des hommes. Dieu accomplit ses promesses dans la vie d'un homme en utilisant un autre homme. Le diable court-circuite les projets de Dieu pour un homme en utilisant un autre homme. L'homme est au cœur des desseins, des enjeux cosmiques pour les hommes sur la terre. Au cœur du plan de Dieu, il y a l'homme. Au cœur du plan du diable, il y a l'homme. Je veux donc vous dire ce matin que l'une des choses que nous devons apprendre à faire, si nous voulons vivre les promesses de Dieu, c'est apprendre à parler aux hommes. Parler à Dieu ne suffit pas. La prière en elle-même ne suffit pas. Si tu ne sais pas parler aux hommes, il y a des prophéties sur ta vie qui ne s'accompliront pas. Il ne faut pas parler trop vite. Il y a des choses que tu as dites qui ont rallongé le délai. Il y a des choses que tu as dites qui ont annulé une saison. Le texte dit « Tant que le méchant sera devant moi ». Il y a donc des gens devant lesquels tu ne dois pas dire certaines choses. Tu es mal dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Le fait que tu sois mal ne justifie pas certaines paroles. Il y a des gens devant lesquels on ne dit pas ce que tu dis. Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand on dit homme, on parle de femme aussi. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je vous dis la vérité, en vérité, je vous le dis. Plusieurs personnes dans la maison de Dieu, chrétiens aimant Dieu, sont en retard dans la vie parce qu'ils se sont mis en colère au mauvais moment. Tu gaspilles tout quand tu es fâché. Tu parles trop vite. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dieu est dans les cieux. Sur la terre, quand Dieu veut faire du bien à un homme, il utilise des hommes. Si quelqu'un est blessé par tes mots, je te dis la vérité, même si c'est Dieu qui lui a dit de te bénir, il peut dire non. Quelqu'un peut retarder l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie parce qu'il n'a pas aimé tes mots. Est-ce que vous savez, Acte raconte, que Dieu appelle Saul et Barnabas dans le ministère. Sauf que le Saint-Esprit parle à ceux qui doivent les établir et il leur dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas mettre à part Saul et Barnabas tout seul. Malgré le fait que ce soit lui qui appelle, sur la terre, Saul et Barnabas ne rentreraient pas dans le ministère sans hommes. Maintenant, si les hommes qui doivent t'établir ont le cœur fermé vis-à-vis de toi, je dis, tu rentres comment? Il faut que je vous dise la vérité. Dieu sur la terre est homodépendant. Dieu peut t'aimer et il t'aime. Mais s'il ne trouve pas un humain avec lequel composer en ta faveur, l'amour de Dieu ne suffira pas. Tu resteras sur ta vie avec des promesses qui ne vont pas s'accomplir parce que toi, tu t'en fous des hommes. Tu parles comme tu veux. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'irrite contre toi, ne quitte pas ta place. Les hommes ont le pouvoir de vous abaisser ou de vous élever, de vous établir ou de ne pas vous établir. Et quand Dieu veut élever un homme, il utilise un autre homme. Aide-moi à parler à ton voisin, dis-lui, fais attention à ta bouche. Vous parlez n'importe comment à tout le monde. Moi, je m'en fous de qui est devant moi, ça sort comme ça sort. Et puis après, tu viens voir l'évêque, le pasteur, pour dire Dieu a parlé, Dieu ne fait pas. Non, Dieu veut faire depuis. Mais à chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un, malheureusement pour toi, tu parles. La Bible dit quand l'insensé se tait, on le prend pour un sage. Ça veut dire qu'il y a un type de folie qui ne se manifeste jamais quand tu as la bouche fermée. Si je dis qu'il ne faut pas parler vite, ce que j'essaye de dire véritablement, c'est qu'il faut apprendre à parler. Je ne pense pas qu'il faut se taire. La Bible dit, Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. 3:7, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. La sagesse, ce n'est pas se taire. La sagesse, c'est savoir quand se taire et quand parler. Lorsque Dieu veut créer quelque chose, il en parle. Dieu ne fait rien sans parler. Le problème n'est donc pas de se taire, le problème est de parler au bon moment et de savoir quoi dire. Je finis cette partie avec ça. S'il faut ne pas parler trop vite, s'il faut apprendre à parler, je vous suggère qu'il faut parler comme Dieu. Comment on parle comme Dieu ? Ensuite, je prêche mon message et je prie. Comment on parle comme Dieu? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé dans la salle. Comment on parle comme Dieu? Premièrement, il faut savoir ce que Dieu dit. Il faut écouter Dieu parler. Et pour ça, prenez la Bible. Okay. Avalez la Bible. L'évêque général en a parlé. Prenez Proverbes. Un chapitre par jour. Pas juste lisez avec les yeux. Déclarez Proverbes. Méditez. Parlez. Appropriez-vous le discours divin. Par exemple, moi, psaume 118, verset 17. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le docteur vient me dire, monsieur, vous avez telle maladie. Le discours médical annonce que je peux mourir prématurément. Mais moi, je ne parlerai pas comme le médecin. Je parlerai comme Dieu sur ma vie. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Quand je me retrouve dans une saison noire de ma vie, psaume 23 dit, quand je marche. Donc ça veut dire que la saison noire de ma vie ne me trouvera pas assis. Si je suis dans une période difficile, moi, je ne m'assieds pas. Je ne m'assois pas, je marche. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce qui me rassure donc, ce n'est pas le fait qu'un ami, qu'une amie, qu'un parent soit avec moi. Quand je suis dans les moments difficiles, je me rassure que Dieu est là. Si Dieu est là avec moi, oh, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en ce qui me concerne, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la fin du chapitre 23. Je sais que ce n'est pas la fin. Tant que je ne suis pas dans la maison de l'Éternel, oh, et que la grâce et le bonheur ne m'accompagnent pas, je suis en train de parler sur quelqu'un ce matin. Je suis en train de te dire que quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, si tu n'arrêtes pas de marcher, bientôt tu vas te retrouver assis à une table. L'huile va être sur ta tête et la coupe va être dans ta main. Et tu vas te rendre compte que tu ne marches pas seul. Il y a la grâce, la faveur qui t'accompagne. Quand je suis dans les moments difficiles comme vous, Jérémie me revient à l'esprit et Lamentation 3. Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ah, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je ne peux pas parler comme Dieu si je ne sais pas ce que Dieu dit. Pour chacune des situations que tu vis, il y a une parole. Pour chacune des choses par lesquelles tu passes, il y a une parole. J'entends la Bible dire, ne vous inquiétez de rien, mais par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, les cadeaux qui parlent à Nagadi là-bas. Quelle est la parole que Dieu t'a dite? Récemment, j'ai pris la décision de regarder toutes les prophéties parce que j'écris mes prophéties. De relire toutes mes prophéties. Je suis reparti jusqu'en 98. Je suis reparti jusqu'en 2005 parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Je suis tombé sur une prophétie qui me parle. J'ai pris la prophétie. 2005, j'écris. J'ai pris la prophétie et je me suis tenu devant Dieu et devant les forces invisibles et j'ai déclaré, Dieu, tu m'as dit, voici ce que tu vas faire avec moi. Alors que je ne le vois pas, je décrète et je déclare que moi, Michel Embourouet, je ne mourrai pas sans que ces choses ne se soient réalisées. Écoutez, la Bible dit que Siméon savait que lui, il ne devait pas partir sans avoir vu le secours. Donc quand finalement Jésus arrive, il dit, maintenant tu peux permettre à ton serviteur d'aller en paix. Ça veut dire que si ce n'est pas la paix, je ne pars pas. Moi, je ne mourrai pas de maladie. C'est pas grave, ça c'est, tu peux ne pas dire amen, c'est ma parole. Moi, je ne mourrai pas comme Élisée. Je ne mourrai pas avec l'onction dans mes os. Je dis, moi, je me transférerai. Je dis, je sais que c'est le moment de partir. Je ne partirai pas sans avoir été heureux et rassasié des jours. C'est dans ma Bible. Menace quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, où est ta parole? Où est ta parole? Où est ta... Moi, j'étais là quand l'évêque général a pris la parole et qu'il a dit qu'il était au Ghana. Que Dieu m'aide à prêcher, je vais prêcher tout à l'heure. Il était au Ghana. Et alors qu'il était au Ghana, malade dans son corps, il nous a appelé. Il m'a appelé, il a appelé l'évêque général. Il nous a appelé. Et au moment où il voulait dire ce qu'il voulait dire, Dieu lui a dit, I'm not done with you. Je n'ai pas fini avec toi. De la même manière que je t'ai utilisé dans cette grâce, dans ce manteau, je vais t'utiliser dans ce manteau-là. Tu vas t'asseoir sur le trône. Donc, il veut pas haut. Nous, moi j'ai entendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les flèches qui volent de jour comme de nuit, il ne mourra pas sans l'accomplissement de la prophétie. Je me tiens à la brèche et je dis à Dieu, Seigneur, tu as dit à ton serviteur que la raison pour laquelle il a envie, ce n'est plus pour l'évangile. Il a prêché l'évangile. Ce n'est pas pour faire des croisades. Il a fait des croisades. Il est encore en vie en 2025 parce qu'il doit s'asseoir sur le trône du pays. Donc ça veut dire que si plusieurs d'entre vous, vous pleurez, vous vous boudez, vous fâchez avec Dieu, vous fâchez avec l'église, vous arrêtez de servir, mais vous n'avez même pas les choses écrites. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Écoute-moi bien, une prophétie non écrite n'est pas une prophétie que tu as prise au sérieux. Si tu es sérieux au sujet de la prophétie, écris-la. Les choses d'en haut. Pour parler comme Dieu. Et ensuite je parle de l'accélération. Parce que j'ai vu ça dans mon esprit. Et je veux prier pour quelques personnes si le temps me fait grâce. Pour parler comme Dieu, je vais vous choquer. Mais il faut impliquer ses émotions. Ça veut dire qu'au-delà, si vous voulez, d'une compréhension intellectuelle, il faut parler avec son âme. Fais-moi un mec comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Il y a des exaucements que vous ne vivez pas parce que vous refusez d'impliquer l'âme. Quelqu'un a l'habitude de dire, « Ah, évêque, je me rends compte que les paroles que je dis quand je suis en colère prennent. » Pourquoi ça prend? Ton âme. Vous avez remarqué que les mauvaises paroles s'accomplissent plus rapidement que les bonnes. C'est parce que très souvent, les mauvaises paroles viennent de l'âme. Tu es fâché, tu es triste, tu es en colère, tu parles. Mais au moment où tu fais les déclarations positives, ton âme n'est pas impliquée. Tu n'y crois pas. Vous me suivez? Les gens spirituels le savent. Ce n'est pas partout, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas à tout moment qu'on fait certaines déclarations. Parfois, on a déjà reçu la parole depuis. Mais on attend l'atmosphère. On attend une ouverture. On attend que notre âme ressente. Par exemple, là, je me suis senti énervé. Et puis pendant que j'étais énervé, je regarde au fond de la salle, je la vois. Et j'entends dans mon esprit, elle doit s'asseoir sur un trône. Et dans mon esprit, moi, elle et moi, on a parlé. Son mari et moi, elle, donc les trois, on a parlé. Donc je sais que Dieu lui a réservé une place. Et donc pendant que mon âme est énervée, je prends l'âme là, je prends l'émotion que je ressens et je l'oriente vers elle. Pour dire, tu vas t'asseoir. C'est-à-dire que je sens donc la colère. Cette colère, je l'oriente contre les choses qui bloquent. Chose que vous devez savoir. La première, c'est que si des gens sont capables de vous retarder, il y a des gens qui sont capables de vous accélérer. Jacob n'est pas celui que Isaac a envoyé chasser. Quand Jacob revient, Isaac se dit, ah, normalement, quand on va à la chasse, on ne revient pas si vite. On ne revient pas si tôt. Mais Jacob, en réalité, n'est pas allé chasser. Jacob ne ment pas lorsqu'il dit, c'est le Seigneur ton Dieu
qui a mis le gibier sur mon chemin. Parce que véritablement, sa mère Rebecca est allée derrière la maison, a pris le chevreau et l'a emmené à Jacob. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, pendant qu'il y a des gens qui vont à la chasse, il y en a d'autres, c'est la chasse qui vient à eux. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent des gibiers, il y en a d'autres, ce sont les gibiers qui le cherchent. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent la bénédiction, il y en a d'autres, c'est la bénédiction qui les cherche. Je viens donc proclamer, du haut de cette sainte chair, j'annonce prophétiquement qu'à partir du dimanche 18 mai, tu rentres dans la saison de si vite, de si tôt, accélération au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu ne dis pas Amen, la parole est libérée dans l'atmosphère. Je dis qu'elle s'attache à celui qui me donne le meilleur Amen. Accélération. Il faut que vous gardiez dans votre esprit que le retard n'existe pas seul. S'il y a des retards, il y a aussi des accélérations. Des gens qui arrivent avant l'heure, des gens qui arrivent en avance. La Bible dit donc que c'est possible pour un homme, kalinema inte pariado, de se retrouver si tôt. Je dis qu'Ésaü va arriver. Ésaü n'était pas en retard, Ésaü était à l'heure. Sauf que Jacob était en avance. Je prie le Dieu de cette maison. Je prie le Dieu de notre Père. Je prie le Dieu de cette alliance. Je dis que Dieu te fasse arriver en avance. De telle sorte que la personne qui était supposée être là ne puisse plus s'asseoir parce que tu es arrivé si tôt. À un rendez-vous, on ne t'attendait pas, mais parce que tu arrives si tôt, je dis que la personne, son cœur s'incline en ta faveur. Allah, regardez, je la vois entrer en ce lieu. Je vais vous donner quelques clés pour vous parler rapidement de l'accélération. Je prie, je prêche et on prie. Allah, mon père, Élie est sur la montagne en train de prier. Pendant qu'Élie prie, il prie pour que la pluie descende. Il envoie son serviteur 7 fois regarder au ciel et le serviteur ne voit qu'à la 7e fois un nuage de la taille de la pomme de la main d'un homme. La Bible dit que lorsqu'Élie entend le serviteur dire, voilà j'ai vu un nuage de la taille de la pomme de la main d'un homme, il dit, va dire à Akab qu'il attelle son char et qu'il descende parce qu'il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit au Gabon qui annonce la pluie. Il y a un bruit à CRN qui annonce la pluie. Je l'ai entendu sur la montagne. J'ai entendu pendant que je priais que CRN, Dieu va nous positionner. J'ai entendu pendant que je priais que les fils et les filles de la maison vont occuper des postes stratégiques. Ne vous laissez pas tromper par ce qui se passe. Vous allez vous retrouver en position de domination. Vous ne saurez pas comment, mais Dieu aura incliné les cœurs en votre faveur. Mon prophète Jack, la Bible dit que lorsque Akab attelle son char, Akab est sur le char, les chevaux tirent le char. Mais ma Bible dit que la main de l'Éternel va être sur Élie. Et un homme va courir plus vite qu'un char. Il y a donc dans le système divin, dans l'économie de Dieu, ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel est capable de donner de la vitesse à un homme. Je dis que la main de l'Éternel se pose sur toi. Que la main de l'Éternel se pose sur tes affaires. Que la main de l'Éternel se pose sur ton ministère. Que la main de l'Éternel se pose sur ta réputation. Que la main de l'Éternel se pose sur ta renommée. Que la main de l'Éternel se pose sur ton nom. Que la main de l'Éternel se pose sur ta famille. Que la main de l'Éternel se pose sur ton foyer.
Je vais vous donner quatre clés si je peux, en quelques minutes, et on va prier. Quatre clés qui permettent aux hommes d'accélérer. Quatre clés qui permettent que des gens qui sont en retard rattrapent le retard. Quatre clés qui font que des gens qui avaient le sentiment que les promesses tardent sortent du délai, sortent du retard. Mané kaliate. Claude, c'est pour toi. Claude, c'est pour toi. Na la. Mon père. Ah! Je rentre des États-Unis, je suis allé étudier. 3 ans à Christ pour les Nations, 2 ans à Oral Roberts. Mon père décède au milieu de tout ça. Quand je reviens, les gens que je rencontre, je les ai laissés en 2003. Et quand je reviens, ils semblent être en avance. Et certains me regardent, ont déjà commencé le ministère. Prêche déjà. Quand j'arrive, j'ai le sentiment d'être en retard. Et je me rappelle de cette réunion de jeunesse où je me retrouve avec d'autres jeunes de ma génération. Et on est en train d'organiser ce qu'on appelait à l'époque la conférence internationale des jeunes des Gigi. Pendant qu'on est dans cette réunion, les gens qui me connaissent et qui savent que je reviens de mes études, un parmi eux décide de proposer mon nom pour diriger une réunion de prière. Et ce jour, à cette réunion, j'avais un collier que j'avais acheté en Australie, à Sydney, quand j'étais parti prêcher. Le collier était comme ça, en fer, en argent. Et donc, je ne savais pas, mais dans cette réunion-là, puisque finalement, je ne suis plus là à la réunion, on va décider du chronogramme, les gens qui étaient à la réunion et qui avaient vu mon collier ont décidé d'enlever mon nom de la liste en disant, il est dans la loge. Parce que vous avez vu son collier. Ce n'est pas un collier chrétien, il n'y avait pas de croix, c'était juste un collier que j'avais trouvé beau. Et le jeune homme là, qui est dans la réunion et qui essaye de pousser mon nom, se heurte à tous les autres qui font un bloc et qui dit, Michel n'interviendra pas. Quand on me rapporte le rapport de la réunion, je suis blessé. Et finalement, je ne suis pas intervenu parce qu'ils ont fait un bloc. Et Dieu me dit, calme-toi. Mais je dis à Dieu, j'ai l'impression que je viens de manquer une opportunité. Je rentre des États-Unis, personne ne me connaît. Ça va être difficile. Pendant que moi j'étudiais, je me faisais former. Eux, ils ont commencé à prêcher, ils avaient même des églises. Mais si vous donnez à Dieu le temps et que vous permettez que la main qui est sur vous se révèle. Je n'ai pas prêché à la réunion, j'étais là assis. Mais dites le temps. Quelques temps plus tard, d'abord non, je vais parler d'aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps. Aujourd'hui, je suis évêque. Je parcours les nations. La main de mon Dieu est sur moi. Je suis fils de mon père. Ceux qui étaient à la réunion n'ont plus de ministère. La première clé, c'est la sagesse. Dites la sagesse. Dis bien la sagesse. Les vierges folles et les vierges sages sont toutes vierges. Mais ce qui va faire la différence, c'est la sagesse. Écoutez-moi. Dans ce texte, je veux vous donner une clé, ou du moins, une clé en ce qui concerne le fait d'être sage. La sagesse dans le cadre des vierges, ce n'était pas d'être vierge, parce que toutes l'étaient. La sagesse des vierges sages, c'était de prévoir que l'époux puisse arriver en retard. La sagesse pour les vierges sages, c'était de se dire, au cas où il est en retard, au cas où il y a un empêchement, au cas où il y a un problème, il nous faut une réserve d'huile. La sagesse, ce n'est donc pas juste d'avoir la réserve, mais c'est de comprendre qu'il peut y avoir un retard, même sur ce que Dieu a dit. Il faut donc avoir une réserve. Les vierges folles et les vierges sages, vierges mais vont dormir. Ça veut dire que dormir n'est pas le problème.
à un moment, tu peux dormir en paix parce que tu as fait des réserves. Écoutez-moi bien. Je prie le Dieu de cette maison que tu deviennes sage au point de faire des réserves. Réserve de joie, réserve de paix, réserve d'argent, réserve de relations. Il y a des relations, tu n'en as pas besoin aujourd'hui, mais tu prévois. Donc tu fais des réserves de relations. Il y a des gens, ils t'ont donné leur numéro, mais tu es conscient qu'aujourd'hui n'est pas le moment de les appeler. Il y a des gens qui te disent, si tu as un problème, appelle-moi. Maintenant, toi, le problème où tu l'appelles, c'est le problème que quelqu'un d'autre que lui peut résoudre, que toi-même tu peux résoudre. C'est la folie. Il y a des gens, tu ne les appelles que quand le problème est majeur. Parce que ça, là, c'est une relation de réserve. Imagine l'évêque général te dit, mon fils, si tu as un problème, appelle-moi. Et toi, tu vas l'appeler pour dire, papa, j'ai vu un cafard. Ah, mon évêque général, un moustique m'a piqué. C'est-à-dire, la relation que Dieu t'a donnée pour te sortir d'une crise future, tu es en train de la détériorer. Parce qu'il se dit, j'ai donné mon numéro à un fou, à un enfant, à quelqu'un d'immature. Mets la main sur ta tête, dis Seigneur, dans cette saison, aide-moi à faire des réserves de relations, des réserves de joie, des réserves de paix, des réserves de prière, des réserves d'offrandes. Moi, comment je fais? Il y a des moments, par exemple là, j'ai raconté, c'est à toi que j'ai raconté le témoignage, je ne peux pas le raconter, mais je t'ai raconté le témoignage. On est au premier culte le matin, et puis le Saint-Esprit me dit, il y a de l'argent qui vient vers elle. Et la pensée de ce culte, c'est que Dieu ici dit, il n'y a plus de délai. Donc les prophéties que je libère, ça doit s'accomplir tout à l'heure. Quand tu sors là, tout à l'heure. Ce n'est pas grave si tu ne dis pas amen, je dis tout à l'heure. La dame est assise là-bas. Je suis en train de vouloir enseigner. Le Saint-Esprit me dit, il y a de l'argent qui va vers elle. Il y a de l'argent qui va vers elle. Je dis, il y a de l'argent qui vient vers toi. Je veux refaire mon message. Il me dit, il y a de l'argent qui va vers elle. Ça m'énerve. Je dis, il te faut combien pour commencer ton commerce? La dame dit 250 000. Je prends mon portefeuille, j'ouvre. Je pensais que j'avais 100 000. Je prends mon portefeuille, j'ouvre. Il restait 70. Je prends mon portefeuille, j'ouvre, j'enlève. Quand je suis en train de compter, les gens commencent à se lever dans la salle. À la fin du culte, la dame qui est venue en béquille, sans commerce, est parti marchant sans béquille avec 620 000.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.